dans ma classe de communication cette année, avec un échange avec les étudiants, et je leur disais que le prédicateur, pasteur, c'est celui qui, lorsque d'autres jouent dehors au soleil, lui est en dedans, en train d'étudier, de se préparer. Les 25 ans, c'est 1000 semaines et c'est 1000 samedis où Chantal est seule parce que je suis au bureau en train de me préparer. Pour nous, c'est beaucoup. Il n'y a pas de plainte. On est juste extrêmement reconnaissants. C'est la vie que nous avons et nous sommes tellement heureux, tellement honorés. Puis comme j'ai mentionné, puis je vois le temps avancer, merci à toute l'équipe. Au mois de janvier, je vais prendre un moment pour reconnaître toute l'équipe aussi. Mais ce matin, je vais juste m'arrêter. J'ai une épouse qui est vraiment extraordinaire. De courage, de force. Quand j'entre chez nous, il y a toujours de la louange, une musique de louange qui joue. Chantal est derrière la scène, s'implique depuis des années à Action Nouvelle Vie. Elle est là à accueillir les gens plusieurs jours par semaine, anime les réunions de prière, rencontre. Elle a un cœur particulier pour les femmes, rencontre les femmes. Et le pasteur prédicateur, c'est celui qui prie et qui est debout quand les autres dorment, qui porte un fardeau quand les autres ont le cœur léger, qui étudie pendant que les autres jouent au soleil. Et ce fardeau-là, Chantal le porte avec moi depuis toutes ces années. Il n'y aurait pas de nouvelle vie sans elle. Et ce matin, je lui dis comment je l'aime, comment je suis fier d'elle et comment je remercie Dieu pour la femme qu'elle est. Alors, bon après-midi à tous. Je vous aime. Bye. Il me semble qu'il reste quelque chose. Ah oui, c'est vrai. OK. Tournez avec moi à l'évangile de Matthieu, chapitre 2, dans la grande aventure de la lumière. Quelle aventure Nouvelle Vie, ces 25 ans ensemble. Et il y a un paradoxe, lorsque nous arrivons, cette année en particulier, au mois de décembre, au Québec, j'étais frappé par à quel point, c'est comme si la province entière cherche à occulter, à faire disparaître Jésus de Noël. Vous remarquez? Toutes les formes de facettes acceptées. Jésus, il y a un grand paradoxe que pendant qu'on fait, que semble que tout est fait pour essayer d'ignorer Jésus à Noël, il y a des multitudes, comme on vient de le chanter, qui sont éblouies par la vraie lumière du Seigneur Jésus. Il y avait 8000 personnes ici dans le mois de décembre, partout à travers la province, des milliers et des milliers viennent à lui. Il y a toutes sortes d'exemples de comment on essaye de sortir Dieu, de sortir, d'essayer de faire disparaître Jésus de Noël. Vous avez peut-être vu, dans les derniers jours, autour de Noël en particulier, il y a eu beaucoup d'attention qui a été portée à cette photo qui apparaît à l'écran, qui a été prise. La première photo de la planète Terre vue de l'espace, ça a été prise par les astronautes d'Apollo 8. C'était il y a 50 ans, la veille de Noël 1968, ils ont publié les premières images. Il y avait plus de 1 milliard de personnes qui regardaient. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus grand, le plus large public de l'histoire. Et lorsque vous entendez, on a beaucoup parlé pendant le mois de décembre autour de Noël et ça a été récupéré par le lobby environnementaliste et comment est-ce que la première image de la Terre est notre Terre qu'on doit protéger tout ça. Et il y a même un journaliste, j'écoutais parce que moi je me souviens de cette image-là, de l'avoir vue par la suite. Et à Radio-Canada, il y avait un panel et fois après fois, ils ont parlé à quel point faut revenir à ce moment-là, la Terre, l'environnement et tout ça. Et il y a même un journaliste que je ne nommerai pas l'animateur, a dit, nous aurions bien besoin, je cite mot à mot, nous aurions bien besoin de revenir à leur vision de l'univers et de notre planète Terre, à leur perspective. Nous avons besoin de revenir à leurs priorités. Et à chaque fois qu'on montre les images qu'ils ont publiées, qu'ils ont montrées à la Terre entière, on ne met pas le son. Parce que on ne veut pas mentionner ici au Québec, c'est que les astronautes autour de la Lune, alors qu'ils voyaient la Terre, ont cité la parole de Dieu. Ont cité Genèse et le Créateur et celui qui est la source de la lumière. Ça dure une minute. Regardez l'ensemble, c'est ça. C'est ça que 1 milliard de personnes ont entendu par les plus grands scientifiques du moment à cette époque, il y a 50 ans. On regarde ensemble pendant un instant à la découverte de la lumière.
And for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. And it was good. And God divided the light from the darkness.
And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning was the first day. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
Yeah. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble? Combien d'entre vous, ce matin, êtes reconnaissants à cette fin d'année que nous connaissons la source de la véritable lumière? Nous reconnaissons Jésus, le Seigneur, le Créateur. Voulez-vous applaudir le Créateur de la lumière qui marche avec nous dans cette aventure de la lumière? Mm-hmm. La grande aventure de la lumière, c'est bien plus que des concerts ou de la musique, c'est un message. C'est plus que des concerts ou des concepts, c'est des convictions. C'est une connaissance, une compréhension qui devient des convictions. Les lumières de Noël que nous découvrons ensemble pendant tout ce mois jusqu'à... On va entrer la nouvelle année la semaine prochaine, terminer la série la semaine prochaine. En commençant l'année, je vais être ici avec vous. C'est des connaissances et compréhensions qui développent une confiance. Et cette confiance-là change nos cœurs. Ça devient des convictions que quels que soient mes combats, quels que soient les conflits, quels que soient ce que je traverse, la lumière est là. Et ces cinq lumières, les messages sont sur notre site, on peut pas le reprêcher, mais je vous encourage à les revisionner même en ce début d'année, pendant toute l'année, parce que ces lumières brillent pendant toute l'année. Elles ne donnent rien, ne sont d'aucun impact s'ils ne sont qu'écoutés ou entendus ici à l'église. Mais lorsqu'elles sont vécues, lorsqu'elles sont incarnées, lorsqu'elles sont crues, lorsqu'elles sont convictions dans nos vies, elles changent tout. Nous avons vu ensemble la première lumière que quand, à travers les textes, les évangiles, c'est magnifique comment ces textes sont riches. Quand je vis le pire, Dieu prépare le meilleur. Quand je pense n'être qu'en attente, Dieu est à l'œuvre pour accomplir. Qu'elle dit un amen à chacune d'entre elles. Quand j'invite, je m'implique et considère mon importance dans son œuvre, Dieu fait briller sa lumière. Peut-vous dire amen? Quand je relâche quelque chose, on l'a vu la semaine passée, et tellement de gens m'ont écrit, quand je relâche quelque chose à Dieu, je reçois toujours infiniment plus. Et toute l'année, bien sûr, nous jeûnons, nous prions, je recherche quel est le message, qu'est-ce que le peuple a besoin, mais en fin d'année en particulier, lorsque j'arrive à la fin d'année, à chaque année, de quoi le peuple a-t-il besoin? Qu'est-ce que, Seigneur, quelle est la parole pour ce peuple ici, et milliers qui suivent par Internet? Comment est-ce qu'on va finir l'année et entrer dans la prochaine année? J'ai tellement ressenti cette année que ce qui était suprêmement important pour le dernier message et le premier, ça va être les deux dernières parties du message vont se faire cette semaine et la semaine prochaine, parce qu'on fait... On termine l'année et on entre avec cette conviction que ce que le peuple avait, ce que nous avions vraiment besoin, c'est de restaurer, de savoir comment restaurer la joie de la lumière, la joie de la lumière. Le sentiment à côtoyer tellement de gens cette fin d'année qu'il y a une lourdeur. Arrive dans la fin de l'année en portant une lourdeur, en portant un poids, en portant un fardeau. C'est une des grandes missions et visions de Nouvelle Vie en 2019. Nous voulons pour vos enfants, pour les jeunes, pour les ados, hommes, femmes, couples, personnes du bel âge, à chaque dimanche, dans chaque réunion, dans chaque petit groupe, nous voulons travailler à créer des environnements de joie. Un endroit où tu entres et le fardeau tombe de tes épaules par la présence de Dieu et tu entres dans la joie. Et c'est la cinquième lumière qu'on va développer ce matin, dimanche matin prochain. C'est comme ça qu'on finit l'année et qu'on entre dans la prochaine. La cinquième lumière dans la grande aventure de la lumière, c'est quand je suivais, c'est une lumière, quand je suivais une étoile et que je trouve un enfant, Dieu me montre le chemin de la joie. Nous allons regarder aux mages ensemble qui suivaient une étoile, mais ils ont trouvé un enfant. Certains diraient, non, ils ont suivi une étoile, mais ils ont trouvé une étable. Mais lorsqu'on lit les textes, la majorité des commentateurs sont d'accord que ce n'est pas, les mages ne sont pas venus, contrairement aux légendes et aux crèches que vous voyez. Les mages ne sont pas venus le texte ne dit pas qu'ils sont venus dans la crèche et par tout l'agencement des Écritures, le lieu, la localisation et tout ça, que nous avons des villes et tout, nous savons, nous croyons, la majorité croit qu'ils sont arrivés deux ans plus tard, sont arrivés arrivés alors qu'ils étaient dans... Ils suivaient une étoile, suivaient la lumière, mais ils ont trouvé un enfant. Et c'est à ce moment-là que l'étoile a commencé à se révéler comme étant la source de joie. Voici un ange leur apparu, Luc 2, 9 et 10. La lumière de la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est une grande joie. Et alors qu'on arrive à la fin de l'année, il y a plein de gens qui portent des fardeaux. J'ai souri lorsque j'ai entendu quelqu'un racontait qu'il était au centre d'achat et puis au Costco, quelque chose comme ça. Et il y avait un papa qui était là, puis il se promenait, puis il y avait, vous avez déjà vu la scène, vous l'avez déjà vécu. Tous ceux qui ont des enfants, on a vécu ça. Il marchait avec, et il y avait son petit garçon. Le petit Samuel était assis dans le carrosse, mais il criait, faisait une crise de fou. Il était rouge, il criait. Tout ce que son père essayait de faire, il donnait quelque chose, il lançait. Il marchait sur le bord des allées. Le petit gars, il tire tout dans le lit, il criait, il tapait, il essayait de sortir, le carrosse bougeait, puis le père s'en allait, puis le père était calme, mais tu sentais tout le fardeau. Le père disait, Samuel, reste calme, Samuel, crie pas, Samuel, pleure pas, Samuel, ça donne rien de lancer des choses, Samuel, garde ton calme, Samuel, fais pas ça, Samuel, crie pas, Samuel, retiens-toi, Samuel, reprends-toi. Puis il y a une femme qui a passé, puis elle dit, monsieur, je vous trouve extraordinaire d'être si calme envers votre fils. Il dit, non, c'est pas lui, Samuel, c'est moi. Samuel, crie pas, Samuel, pleure pas, Samuel, retiens-toi. Dites à la personne près de vous, je suis Samuel. Samuel, c'est moi. Dites ça à quelqu'un près de vous. Bien, ce matin, comme si les mages sortaient du texte biblique pour nous rappeler comment trouver la joie. Je prends une seconde pour juste souligner dans tous les sujets de joie en cette fin d'année. C'est extraordinaire. Je vois le pasteur David Mazenko qui est avec nous avec son épouse Irma dans la première rangée, qui est pasteur de l'église Nueva Vida. Et dans tous les sujets de joie, c'est l'extraordinaire réveil qui prend place à Nueva Vida. Et on a eu nos concerts en français, les quatre célébrations, les quatre représentations. On a eu 7000 personnes. Mais Nueva Vida a fait son concert samedi soir de Noël, il y avait 1200 personnes, 1200 hispanophones à la Promesa. Gloria a Dios. Et on m'a expliqué qu'il y avait des mages, il y avait des bergers qui étaient costumés. Il y en a un qui était en retrait à l'arrière. Et vers la fin du concert, tout à coup, le mage a sorti et c'était le pasteur David Mazenko qui est venu apporter le message. Alors ce matin... c'est comme si les mages sortaient du texte biblique. Ils venaient nous apporter le message qui est très, très pertinent parce que c'est le message de la lumière de Dieu quand je suivais une étoile, mais que je trouve un enfant. Il faut que vous compreniez que les mages, on sait que sont partis d'une distance probablement de l'Iran, on dit de l'Est dans la Bible, de l'Iran, on parle de centaines et centaines de kilomètres. Ils étaient des leaders, ils étaient des astronomes, ils étaient des scientifiques, et ils attendaient, ils cherchaient une étoile, ils suivaient une étoile, s'attendant à trouver un conquérant, s'attendant à trouver celui qui va renverser Rome, s'attendant à celui qui a trouvé. Et lorsqu'ils arrivent et qu'ils trouvent un enfant, comprenez, que dans la culture de l'époque, les enfants étaient sans valeur. Ils arrivent et ils trouvent un enfant, ils trouvent ce qui, à leurs yeux, aux yeux humains, était sans valeur, sans pouvoir. L'enfant ne peut rien, sans possibilité humaine, dépendant, sans la moindre perspective d'impact et d'influence. Je suivais une étoile et j'arrive à la fin de l'année et j'ai trouvé une étable où j'ai trouvé tellement moins. Si je suivais ma destinée et j'ai trouvé... une déception. Je suivais une promesse et j'ai trouvé une peine. J'avais une promesse, je pensais que mon mariage était pour être, je pensais qu'avec mes enfants, je suivais une promesse, j'avais une lumière, j'avais une promesse, je pensais que j'arrive à la fin de l'année à un endroit où je n'aurais jamais imaginé, je suivais une étoile, mais j'arrive à une déception, il est arrivé un deuil, il est arrivé un déchirement, il est arrivé quelque chose que je n'avais jamais vu venir, il est arrivé une série d'attaques que je ne pouvais même pas imaginer, il est arrivé dans mes études, dans mon travail, dans mon ministère, pour Dieu, pour le service de Dieu, je suivais une étoile, mais je me retrouve aujourd'hui dans ce lieu. Je suivais, je pensais que quelque chose était pour exploser, c'était pour aller tellement bien. Je m'attendais à un roi et j'ai une saison où je vois rien, où il y a comme juste une ruine. Et pourtant, les mages ont été saisis d'une grande joie. Alors qu'ils étaient déçus, désorientés, déstabilisés, alors qu'ils ont à faire un certain deuil de ce qu'ils croyaient qui était pour arriver, comme vous et moi, dans une sphère ou une autre de nos vies, ils ont été saisis d'une grande... La lumière est devenue un sujet de joie après avoir entendu Matthieu chapitre 2 et les versets 9 et 10. Après avoir entendu le roi Hérode, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'il était arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ce n'est certainement pas parce qu'il n'y avait pas des tragédies autour ou parce qu'il n'y avait pas de la souffrance. La Bible n'est jamais en déni. La Bible n'est jamais en déni sur la réalité des tragédies humaines qui viennent nous voler notre joie, qui veulent anéantir notre joie. Vous connaissez le contexte que lorsqu'on va aller dans un instant que les mages sont arrivés, c'était au temps d'Hérode. Hérode était un despote, était le pire tyran sanguinaire que vous pouvez imaginer. C'était un règne de terreur, un règne de meurtre. César Auguste l'avait nommé le roi des Juifs. Il est dominé avec une main de fer. Et lorsque la délégation, parce que c'est pas trois mages, Balthazar et Balthazar, je me souviens pas les trois noms que la tradition a donné, mais c'est pas les Gaspard et non, c'était une délégation qui est arrivée et tout Jérusalem les a vus arriver. Et lorsqu'ils sont à la recherche d'un roi, leur impact, leur influence était telle qu'il y a une terreur de folie dans le cœur de Hérode, qui pense qu'il y a quelqu'un qui va venir me débarquer. Et lorsqu'il n'est pas capable d'aller identifier l'enfant, il fait assassiner. Il fait assassiner. Le texte biblique nous dit qu'il a fait assassiner Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande rage, envoya tuer les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire. Et les commentateurs nous disent que c'était sans doute seulement quelques dizaines d'enfants. C'est un petit village, seulement des garçons de moins de 2 ans. Mais aucun des livres d'histoire ne le mentionne, mais la Bible le mentionne parce que ce qui semble insignifiant ou sans signification, ton problème, tes batailles, tes étoiles qui t'ont déçu, ta déception, ta peine, tes craintes, tes peurs, ce que personne ne voit, ce que personne d'autre ne remarque, Dieu le voit. Chaque cœur, chaque enfant, chaque famille, chaque couple est précieuse devant lui. Mais le texte nous dit qu'alors s'accomplit ce qui avait été annoncé. La joie, eux sont saisis de joie, mais on a entendu des cris, des pleurs, des grandes lamentations. Il n'y a pas un déni face à la réalité des peines, des pleurs, des lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée. Cette parole est dans mon cœur depuis des semaines. Alors que j'avais à cœur que on finirait l'année pour commencer la nouvelle année avec la joie, avec comment s'emparer, être ressaisi par la joie de l'étoile. Cette parole me pèse sur mon cœur depuis des semaines. Rachel avait une peine qui est réelle. Elle pleurait, on comprend totalement sa peine. Mais elle n'a pas voulu être consolée. Elle ne voulait pas être consolée. Seigneur, est-ce que des moments dans nos vies où la tentation est forte dans chacun d'entre nous, juste de m'enliser dans ma peine, m'enliser dans mon amertume, m'enliser dans mes pourquoi, m'enliser dans mes... Et est-ce que, Seigneur, je suis prêt à ouvrir mon cœur à comment tu veux me sortir de là et me faire redécouvrir ta joie? Comment et pourquoi les mages ont-ils été capables de retrouver la joie? On va regarder à différents pas ce matin et dimanche matin prochain. Mais la première pensée, juste en commençant, quelques pensées juste dans le verset qu'on vient de lire. Je peux être dans la joie parce que la lumière marche devant moi. La lumière, l'étoile marchait devant eux. Je vais te le dire en cette fin 2018, début 2019. La lumière marche devant toi. Dieu marche devant toi. Dieu prépare un chemin devant toi. Dieu répare devant toi. Dieu restaure devant toi. Je peux me réjouir. La lumière marche devant moi. Je peux être dans la joie parce que la lumière marche devant moi. Je peux être dans la joie parce que la lumière est au-dessus de ma situation et la lumière sait qui je suis. S'arrêta jusqu'à ce qu'elle est arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant. Elle s'arrêta. C'est ce que la Bible appelle la joie de notre salut. La joie du salut dans le Seigneur. De s'arrêter un instant. Pouvez-vous vous arrêter un moment? Quel que soit ce qui est arrivé en 2018, la grâce de Dieu s'est arrêtée sur moi. Le pardon de Dieu s'est arrêté sur moi. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Il n'a pas perdu mon adresse. Il sait où je suis. Et la grâce, applaudissez la grâce qui s'est arrêtée sur toi et ta maison. Allez, allez, ovationnez la grâce qui s'est arrêtée sur votre maison. Comment ont-ils pu? Savez-vous comment? Comment ils ont été capables de marcher dans la joie au milieu des pleurs et des ramas, au milieu des Rachel qui ne veut pas être consolée? Ils ont marché dans la joie parce qu'ils ne quittent. Je peux être dans la joie lorsque je ne quitte pas l'étoile des yeux. La Bible, la lumière des yeux. La Bible nous dit, lorsqu'ils l'aperçurent, il y a ce moment, mais lorsqu'ils l'aperçurent, la lumière, ils furent saisis d'une grande joie. Et je veux laisser les mages nous apprendre ce matin. On va faire un pas ou deux ce matin et continuer dimanche matin prochain. C'est comme ça qu'on finit 2018. On entre dans 2019. Quand je suivais une étoile et que je trouve un enfant, je suivais une destinée et que je trouve une déception, Dieu me montre le chemin de la joie. Et les mages nous disent, il ne faut jamais arrêter d'adorer. Je vais arrêter d'adorer. Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, c'était le temps du roi Hérode, des temps d'horreur, des temps de doute, de peur, de terreur. Voici des mages d'Orient arrivèrent de Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile, sa lumière en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Au verset 10 et 11 du même chapitre de Matthieu, quand ils ont aperçu la lumière, l'étoile, ils ont été saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ont ouvert leur trésor et ils se sont mis à l'adorer. Ces hommes étaient des scientifiques, ces hommes étaient, les historiens nous parlent d'eux comme étant des kingmakers. Il n'y a aucun roi dans le royaume des Mèdes et des Perses qui pouvaient être élus sans leur approbation. C'était des hommes d'influence. C'était des hommes qui arrivaient avec de grandes attentes, avec de grands pouvoirs, de grandes capacités. C'était des hommes habitués à ce qu'on se prosterne devant eux. Et lorsqu'ils arrivent à Jésus, il y a la déception, il y a l'incompréhension, c'est seulement un enfant. Mais la Bible nous dit qu'ils se sont prosternés pour l'adorer. Remarquez que Jésus n'avait encore rien fait. Ils ne l'ont pas adoré pour ce qu'il était. Il faisait pour eux. Il n'y a pas de miracle encore. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de résurrection. Il n'y a pas eu de multitude qui a été nourrie. Il n'y a pas eu d'aveugles qui ont vu. Il n'y a pas eu de boiteux qui ont marché. Ils n'ont pas adoré parce qu'ils les avaient exaucés. Ils n'ont pas adoré parce qu'ils les avaient élevés. Ils n'ont pas adoré parce qu'ils avaient répondu, parce qu'ils leur avaient accordé leur moindre souci, leur moindre désir et ambition. Ils n'ont pas adoré pour ce qu'ils faisaient. Ils l'ont adoré pour qui il était. Ils l'ont adoré parce qu'il est Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Quand tu traverses cette saison-là, adore-le. Je dois choisir ma position en cette fin d'année. Ils ont choisi quelque chose qui est très, très contraire à notre culture moderne d'arrogance, d'orgueil et de c'est moi qui est en contrôle de ma vie et même d'égocentrisme. Prosternez-vous, écoutez-moi, suivez-moi, servez-moi, occupez-vous de moi, attendez-moi. Non, ils ont choisi leur position qui à chaque fois nous amène à la joie, se sont prosternés devant lui. Et c'était quelque chose qui signifiait quelque chose à l'époque. Tu arrivais devant un roi, tu amenais ton trésor, tu arrivais devant un plus grand et un plus fort que toi, tu capitulais, tu arrivais et tu remettais, tu arrivais et tu honorais, tu rendais hommage. Je dois choisir ma position en cette fin d'année. J'ai mes étables, j'ai mes déceptions alors que je suivais une étoile et vous avez les vôtres. Mais je veux choisir ma position devant Dieu. Est-ce que je vais être dans une position d'amertume ou d'attaque ou est-ce que je vais m'agenouiller pour l'adorer? Est-ce que je vais être dans une position de blâmer Dieu ou de bouder Dieu ou est-ce que je vais bénir Dieu? Est-ce que je vais être dans une position, me placer dans une position de doigts pointés, de blâme, de poings serrés ou de bras croisés? Ou est-ce que je vais être dans une position où je lève mes mains vers lui et je dis, tu es bon, tu es grand, tu es digne, tu es le même, tu es fidèle et je te donne mon adoration. Quelqu'un devrait l'adorer ce matin. Est-ce que je vais être dans une position de retrait, de reproche à d'autres, à moi-même, envers des gens ou même secrètement envers Dieu? Est-ce que je vais avoir une position de retrait ou de reproche ou une position où je me rappelle que l'adoration va relever ma tête? L'adoration va relever ma tête. Sous attaque de mes ennemis, l'adoration m'élève au-dessus. Le psaume 3, 1 à 3, l'homme selon le cœur de Dieu, le plus grand bâtisseur du royaume de Dieu, celui que Dieu a utilisé, l'onction de Dieu sur lui, il a abattu les géants, il a bâti le royaume. Mais au psaume 3, David dit ceci, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Ils tentent d'élever une multitude contre moi. Ils disent à mon sujet, plus de faveur pour lui auprès de Dieu. Il bâtissait le royaume de Dieu. Puis il y a quelqu'un qui se lève pour dire, non, Dieu n'est pas avec lui. Dieu est contre lui. Non, avec moi, on va se rassembler pour l'abattre. Mais toi, et là, il y a une pause. Mais toi, ô Éternel, regardez, il rentre dans la louange. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es mon défenseur, tu es ma gloire, et c'est toi qui relèves ma tête. Lorsque les ennemis sont nombreux, on a tous vécu ces moments de pause. La maladie a frappé, le doute a frappé, la séparation a frappé, la déception a frappé. Tout à coup, là, y a les attaques, les voix, il y a un moment de pause. Ce matin, je termine cette année, je sors de la pause dans la louange et dans l'adoration. Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est mon bouclier et Dieu va relever ma tête. Oh, voulez-vous applaudir la lumière de Noël? Et Dieu va relever ma tête parce que voilà la lumière de Noël. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir des cœurs brisés. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté. Et pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui suivent une étoile et ont trouvé l'enfant, pour leur donner un diadème, un diamant au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Plusieurs d'entre vous, combien d'entre vous, vous êtes allés vous acheter quelque chose de neuf, un vêtement neuf pour le temps des fêtes, vous-même partout? Combien d'hommes ici, et femmes aussi, mais combien d'hommes aussi ont vu votre épouse debout devant une pièce entière de vêtements parce que j'ai rien à me mettre. J'ai rien à me mettre sur le dos à Noël. On est allé aux promenades, acheter ce nouveau veston. On est allé aux promenades et on a rencontré plein de gens qui cherchaient quelque chose. Est-ce que je peux vous donner une suggestion de vêtements pour Noël? Je choisis de me revêtir du vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu et l'huile de joie qui va venir. Il y a un livre fascinant que je vous recommande de George Barna qui s'intitule « Spiritual Conversations in the Digital Age ». Des conversations spirituelles dans une époque digitale. Et ils ont fait une étude fascinante aux États-Unis. George Barna a fait cette étude, ce qui est devenu un livre. Ils ont écrit à des centaines d'églises puis ont demandé à des pasteurs et des leaders, « Pouvez-vous me donner le nom avec leur permission d'une famille ou de quelqu'un de votre église qui a traversé dans les dernières années une épreuve horrible et qui en a sorti que même pendant l'épreuve, ont gardé une joie, ont gardé des forces, étaient résilients, étaient pleins de témoignages et sont devenus une inspiration à travers leurs épreuves. » Ils ont recueilli 500 noms de familles, de gens qui ont traversé quelque chose d'horrible. C'était un deuil, c'était la maladie, c'était un AVC, c'était un déchirement, c'était quelque chose de terrible qui est arrivé dans leur vie, mais ils l'ont traversé et puis l'église, qu'elle soit une église, quelle que soit la grandeur d'église, les gens autour, on se dit, regarde-les, comment est-ce qu'ils font pour traverser ça? Ils sont devenus un témoignage, ont honoré Dieu, ont glorifié Dieu à travers tout ce qu'ils traversaient. Et c'était quelque chose qui était tellement... Et après ça, ils ont compilé le data, toute l'information. Et savez-vous quelle était là? Et parce qu'ils se sont dit, il doit y avoir quelque chose qu'ils ont en commun. Il y a quelque chose que ces gens-là ont en commun. Savez-vous ce qui était là? La chose, la première chose qu'ils ont eu le plus en commun, ils étaient des worshippers. Différentes dénominations, différents arrière-plans, différents. C'était des gens qui ont dit, moi, ce qui m'a permis de traverser, là, c'est l'adoration. Si j'étais attaché à Dieu, c'était la louange, c'était l'adoration. Ils leur ont posé deux questions. On dit, c'est quoi pour vous l'adoration? C'est quoi pour vous la louange? Puis ils ont posé la question, qu'est-ce que la louange vous a? Qu'est-ce que la louange vous a apporté? C'est quoi pour vous la louange? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Ils ont commencé à décrire leur expérience dans ce livre. C'est que « Spiritual Conversations in the Digital Age ». À un âge où tout le monde passe des heures et des heures sur leur ordi, souvent ce qui est supposé les détendre, les démonise, les décourage. Ces hommes, ces femmes de tous les arrière-plans sociaux ayant une chose en commun, on a traversé une épreuve, ayant une chose en commun, ayant trouvé la joie au milieu des ténèbres, la lumière de la joie qui a brillé dans leur cœur. Ils ont dit, on était dans l'adoration. l'adoration. Parce que alors que j'adorais Dieu, il y a une paix qui revient. Quelqu'un a dit, lorsque je m'adore, je m'approchais de Dieu, la présence de Dieu était là où j'étais. Je disais, un des commentaires d'un homme qui travaille dans des mines, un mineur qui a perdu un enfant et qui racontait, j'étais au fond de la mine, il n'y avait pas de lumière. Puis quand j'avais 15 minutes de libre, je mettais de la louange. J'adorais Dieu et au fond d'une mine, 5000 pieds sous terre, la présence de Dieu venait me réconforter. Quand j'étais dans la louange, les promesses de Dieu revenaient. Quand j'étais dans la louange, mes problèmes diminuaient et Dieu était élevé. Quand j'étais dans la louange avec mes amis, avec ma famille, à l'église, je m'approchais de lui, il s'approchait de moi et malgré tout ce que je traversais, il y avait une lumière de joie que Satan lui-même n'est pas capable d'éteindre. La louange et la foi et la joie. On dit, c'est quoi pour vous la louange? Puis, je vais simplement vous dire au cas, à certains d'entre vous, je vais vous voir regarder votre montre. J'avais deux points, je vais en faire un. Je vais en faire juste un ce matin. N'ayez pas peur. Il ne faut pas arrêter d'adorer. Puis, c'est quoi la louange? Se prosterner pour adorer. Ils ont répondu, l'adoration, la louange, l'adoration, c'est... Il y avait différentes réponses, je les ai mis ensemble. L'adoration, c'est l'humilité. Ils se sont prosternés. Ces hommes étaient habitués à ce que des multitudes se prosternent devant eux. Des hommes fiers, des hommes orgueilleux, des hommes puissants, des hommes des décideurs, des hommes éduqués, des hommes qui avaient des réponses, qui avaient des solutions, des hommes qui avaient traversé les nations pour arriver, des hommes qui étaient des décideurs, qui étaient habitués d'avoir contrôle des choses. Mais lorsqu'ils sont arrivés à ce moment crucial, ils nous ont donné un modèle pour tous les millénaires à venir. Ils se sont prosternés. Humilité. Je réfléchissais à la pensée que l'humilité règle et fait disparaître à long terme les problèmes et l'orgueil crée les problèmes. L'orgueil crée, multiplie, développe, maintient, alimente et multiplie, magnifie les problèmes. Pensez-y, dans un couple, l'orgueil qui sépare, l'humilité qui réconcilie. L'orgueil, moi, j'avais raison, c'est moi, non, je ne prierai pas, non, je ne dirai pas, non, je n'admettrai pas, non, je vais me justifier, non, j'ose. L'orgueil amène les problèmes. L'orgueil amplifie les problèmes. L'orgueil tue la joie. L'humilité qui la développe. L'humilité qui vient. L'humilité, remarquez dans un mariage, dans une relation, dans une amitié. Vous êtes patron avec vos employés, vous avec vos compagnons de travail, avec vos collègues, avec les gens au-dessus de vous en autorité sur vous dans votre vie. L'orgueil va tuer ton appel. L'orgueil va tuer tout ce que Dieu t'appelait à être, va voler ta joie complètement. Il y a plein de gens qui entrent et arrivent à la fin de 2018, la joie est disparue, puis c'est l'orgueil qui l'a dévoré, qui l'a dérobé, qui a soufflé sur la lumière de leur joie. L'humilité amène la paix. L'orgueil avec Dieu tue la joie. L'orgueil de « j'accepte pas ce que tu fais, j'accepte pas ce que je comprends pas, j'accepte pas ce que je vois pas. Ta parole me dit de faire ça, mais moi je le ferai. » Les gens ont répondu à ce sondage de Barna, une des choses qui est pour nous l'adoration, et je le mets dans le contexte d'image, ils sont venus porter leur peine, leur douleur, leur doute, leur questionnement, leur trésor, ce qui était le plus précieux pour eux. Okay. La déception la plus précieuse, ça c'était précieux pour moi, ça m'a déçu. Je suis venu le porter à Dieu en disant, je te fais confiance, t'es au-dessus de moi, tes voix sont au-dessus, ta sagesse est au-dessus, tes promesses sont au-dessus. I'm going low, I'm lifting you high. Moi, je viens devant toi avec humilité, je t'adore, je te loue et j'ai confiance que tu vas me ramener dans un chemin de joie. Quelqu'un devrait dire amen. C'est une notion d'humilité. C'est une notion littéralement d'hommage et d'honneur. Je m'en viens de te donner l'hommage, je m'en viens de te donner l'honneur. C'est peut-être quelque chose qui est en train de se perdre dans le monde chrétien moderne, mais c'est la notion, les gens ont répondu quelque chose qui m'a tellement touché, ils ont dit, j'avais cette notion qu'à travers mon épreuve, je veux honorer Dieu. Je veux que les gens qui me regardent voient ma confiance en mon Dieu, voient qu'il est fidèle. J'ai plein de gens ont répondu. À travers ce que je traversais, je savais qu'il y a des gens qui me regardent, qui traversent des choses aussi. Des gens, et je voulais que ma vie leur dise, Dieu est fidèle. Lorsque tout s'effondre, accroche-toi. Dieu est capable de rebâtir. Qu'est-ce qu'on a besoin plus que jamais dans cette génération? C'est des hommes et des femmes de tous les âges qu'à travers leur épreuve, lâche pas, abandonne pas, jette pas, se prosternent et font confiance et dire à travers ça, je vais honorer Dieu et Dieu va faire son œuvre en moi. Une notion d'honneur, une notion littéralement de hauteur, ses voix, c'est littéralement, je vais l'honorer parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Je vais l'honorer au-dessus de mes situations. Son amour est au-dessus du mien et il veut me remplir. Sa sainteté est au-dessus de la mienne. Sa pureté, sa fidélité est tellement au-dessus de la mienne. Sa vision de mon futur est tellement au-dessus de la mienne. Ses plans sont tellement au-dessus des miens. Je donne de la hauteur à Dieu, à Jésus comme les mages. Seigneur, ta fidélité est plus haute que ce que je traverse. Ta bonté est plus haute. Ta capacité rédemptrice est plus haute. Ta puissance pour transformer est plus haute. Je viens avec humilité. Je viens avec hommage et honneur. Je viens et je te donne la hauteur et je viens t'adorer. Basé sur ton historique, tu es tellement bon, tu es tellement fidèle, tu ne m'as jamais abandonné. À travers les âges, tu es venu vers moi et je sais que tu vas continuer à venir vers moi dans ma situation. C'est pourquoi je t'adore. Quelqu'un devrait adorer. Tu es venu vers moi et c'est pourquoi je t'adore. Le pasteur Chris Hodges raconte un témoignage, j'étais vraiment touché à raconter ça la veille de Noël avec la permission des gens. Il racontait le témoignage d'un couple de l'Église, que la femme avait, et le couple ont traversé une série d'épreuves et une série de difficultés dans le mariage qui était vraiment tout à exploser à un moment. Et quelques semaines avant, au début du mois de décembre, le mari était revenu du travail et son épouse avait disparu. Elle est partie. Il y a 3 enfants. Elle était en dépression, elle était attaquée de tous les côtés, elle était tourmentée, elle ne dormait pas, insomnie, tout ce que vous voulez. Et elle a quitté la maison. Et elle a paniqué, attendu une journée, a appelé tous ses amis, elle a finalement appelé la police le soir même, et toutes sortes de choses. Et finalement, il y a comme une recherche qui a été faite entre tous les amis. Il lui envoyait plein de textos, plein de messages, aucune réponse. Et 5 jours plus tard, je ne sais pas si c'est les policiers ou qui, 5 jours plus tard, ils l'ont localisé. Elle était encore dans la même ville, mais c'était enfermé dans un hôtel miteux en plein centre-ville, complètement contraire à tout ce qui elle était. Elle était dans le centre-ville, dans un hôtel miteux. Et lui, lorsqu'il a appris ça, a pris les enfants, les a mis dans la caravane, les a mis dans son véhicule, s'est en allé jusqu'au centre-ville, est allé cogner à la porte de la chambre, a ouvert, puis a dit, « T'es mon épouse, t'es ma femme, je t'aime, on a une vie ensemble, et je suis venu te chercher. » Sans dire un mot, elle a dit « Attendez-moi, j'arrive ». Sans dire un mot, elle a tout pris ses choses. Elle est venue, elle s'est assise dans la voiture, elle est revenue à la maison. Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle n'a pas pu s'empêcher de dire « Mais chérie, je t'ai envoyé tellement de courriels, j'ai envoyé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a dit « Je ne croyais pas que tu étais pour venir me chercher. » Et Noël, la lumière de Noël, c'est que Dieu est venu vers moi. Dieu est venu vers toi. Et pensez-y à cette fin d'année, combien de fois il est venu. Il est venu quand j'étais au bout. Il est venu quand j'étais son ennemi. On l'a chanté. Quand je le rejetais, il est venu. C'est l'amour extravagant de Dieu. Il est venu quand moi, je n'allais plus vers lui. Il est venu lorsque j'ai déçu tout le monde. Il est venu lorsque je me suis menti à d'autres. Il est venu. Il m'a pourchassé. Il est venu me chercher. Il est venu lorsque j'étais sûr que c'était la fin. Et il a rebâti. Il a restauré. Il est venu et il viendra encore. C'est pourquoi je vais l'adorer. Vous dire amen. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Eux s'attendaient à avoir un deuxième point. Les musiciens vont s'approcher dès maintenant. Allez les chercher partout où ils sont dans la ville de Longueuil, au Tim Hortons, au McDonald's. J'invite les musiciens à revenir. J'espère qu'ils vont revenir. Lorsqu'on parle de la lumière de la joie, et saisi par la lumière de la joie, c'est quelque chose qui, à l'église le dimanche, on est ici, puis chacun d'entre nous savons que dans l'expérience, même dans l'expérience du quotidien, là, ou de l'expérience des fêtes, chez nous, c'est mon époux Chantal qui fait tout, qui décore tout, qui fait tout, la maison est magnifique. Vous connaissez l'expérience de, tu allumes les lumières, tu mets les lumières dans l'arbre et tout est magnifique. Et plusieurs d'entre vous avaient déjà vécu qu'on ne sait pas trop comment est-ce qu'on a défait l'arbre de l'année passée, mais lorsqu'on arrive à être dans la joie de la lumière, on trouve quelque chose comme ça. La joie de la lumière. Et là, il y a toujours des... C'est Pasteur Claude à l'église qui nous parle de la lumière qui peut rebâtir, la lumière qui ramène, de la lumière que si j'ai avec humilité puis j'y remets tout, il est capable de... Mais c'est, ça ne se fait pas en un instant démêler ça, là. Démêler un mariage, démêler... une relation, une amitié, une destinée avec Dieu. Il y a eu des blessures, il y a eu des déceptions, il y a eu des... Et qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Puis c'est pas de l'instantané. On n'est pas en train de vous dire que En une seconde, en sortant d'ici, toutes les lumières vont s'allumer automatiquement. Mais la confiance en Dieu, la foi en Dieu, l'adoration de la fin de l'année, comme les mages, nous nous agenouillons. Nous savons qu'il y a des choses qui peuvent prendre du temps à démêler. Ça va être difficile, ça va prendre du temps, ça peut être dur, ça peut être... Mais au bout de ça, celui qui a commencé une bonne œuvre en nous est capable de rétablir son ordre, sa lumière, la joie, là où il y avait seulement le deuil, un diadème brillant, là où il y avait seulement des cendres de deuil, une huile de joie, là où il n'y avait que des cœurs affligés et un esprit de louange au lieu d'un cœur abattu. Nous le croyons. Et avez-vous remarqué, pendant des années, ceux d'entre vous qui avez déjà vécu ça, c'est... Les systèmes de lumière étaient faits d'une certaine façon, que toutes les lumières, ta vérité était toute faite, tu as réussi à démêler. Et est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience que s'il en manquait une, tout le kit au complet ne brillait pas? Quelle horreur! Il y en a une de brûlée ou il en manquait une? J'aimerais vous dire que l'humilité, le cœur de repentance, le cœur qui vient remettre tout à Dieu, le cœur qui est prêt, on va découvrir ça la semaine prochaine, à trouver un autre chemin avec Dieu. Le cœur qui est dans l'adoration et la lumière qui permet à toutes les autres de briller à nouveau. Vous êtes ici ce matin, vous pouvez connaître Dieu depuis des années, venir à l'église depuis des années, avoir tous les arguments, tout savoir. Mais à moins que vous ne veniez avec un cœur d'adoration, un cœur qui lui remet, un cœur qui remet son trésor avec confiance, un cœur qui se fixe, tu marches devant moi, la lumière marche devant moi, la lumière est au-dessus de moi, la lumière est en moi, la lumière ne m'abandonnera pas et mes yeux vont être fixés sur elle. Et lorsque vous entrez ainsi dans l'adoration, lorsque vous rétablissez l'adoration, là, il y a un moment où j'espère que ça va marcher parce que sinon toute ma théologie tombe sur le dos. Et vous savez, parfois, dans le grand cheminement de la foi, nous avons besoin d'aide pour trouver la lumière. Je vais demander à Yves Bergeron de m'aider. Je veux applaudir ceux qui viennent nous soutenir dans la lumière. Non, l'autre bout est où? Parfait. Là, vous savez pourquoi c'est ma femme qui le fait chez nous. Je vais reprendre ma dernière phrase. Et lorsque vous rétablissez la louange, l'adoration, la confiance en Dieu, même pas du bon bord, lâche pas ta job de jour, pasteur, continue à prêcher. Et lorsque nous allons rétablir, finir l'année et entrer en 2019 dans la louange, dans l'adoration, dans la confiance, dans l'humilité, dans l'honneur, lui donnant la hauteur qu'il mérite selon l'historique de sa fidélité, la lumière va se... Est-ce qu'on peut se lever et adorer Dieu ensemble pendant un instant? Est-ce qu'on peut se lever et adorer Dieu ensemble pendant un instant? Alléluia. Seigneur Jésus, nous allons prendre la communion dans quelques instants. Et comme il y a 2000 ans, nous allons, Seigneur, chanter tes louanges, comme tu as fait avec tes disciples il y a 2000 ans. Vous avez chanté les cantiques qui rappelaient ta grandeur et ta fidélité. Et nous venons devant toi, et je prie pour chacun de mes frères et sœurs, alors que nous allons tenir le pain et le vin, nous allons nous rappeler de qui tu es, comme les mages. Je te prie, bannis l'orgueil de mon cœur. Bannis, Seigneur, l'orgueil qui fait dire non, l'orgueil qui refuse de pardonner, l'orgueil qui refuse de relâcher, l'orgueil qui refuse d'accepter que tu es plus grand, que tu es fidèle, que tu as un plan, que tu peux restaurer toutes choses. Nous ne sommes pas ceux qui doivent déterminer ce qui peut être restauré. C'est toi qui es le grand fidèle. Alors, comme les mages, nous suivions une étoile de lumière et quelle que soit l'étable ou quelle que soit, nous suivions notre destinée, quelle que soit la déception que nous avons pu trouver. Nous suivions des promesses que nous avons faites ou que d'autres nous avaient faites. Quelle que soit la peine que nous avons trouvée, nous allons t'adorer, nous allons te louer, nous allons déclarer ta grandeur et ta fidélité. Quels que soient les ennemis qui sont nombreux, je vais déclarer, je ne resterai pas dans une pause. C'est là. Non, je sors de la pause où j'ai été silencieux et je déclare, tu es mon bouclier, tu es mon Dieu, tu es ma fidélité, tu es bon, tu es grand et je remets toutes choses entre tes mains alors que je vais le faire. Je vais ainsi m'approcher de toi de grâce en grâce. Tu vas bénir, tu vas restaurer, tu vas réparer, tu vas rétablir, tu vas même ressusciter ce qui était mort. Ce matin, reçois maintenant la louange et l'adoration de ton peuple. Alors que nous allons prendre le pain et le vin, nous voulons déclarer au ciel. C'est ainsi que nous terminons cette année, en te louant, en te remerciant, en t'adorant, en t'exaltant, en mettant notre confiance en toi. Et nous voulons déclarer même aux ténèbres. C'est ainsi que nous entrons dans la prochaine année avec une entière. Nous allons faire taire les voix d'accusation, les voix qui nous abaissent, les voix qui disent c'est fini, les voix de mensonge de l'ennemi lui-même dans nos esprits et nos cœurs. Et nous entendons ta voix à toi, Seigneur, qui dit fais-moi confiance, remets-moi toutes choses, adore-moi, attache-toi à moi, approche-toi de moi. Et je vais rétablir toutes les lumières dans ta vie. Dans l'adoration de grâce en grâce, nous te louons dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur?